retrouver Rose pour l'émission Contradiction sur IDFM Radio, un temps dédié aux gens qui se donnent du mal pour aller bien.
C'est comme si tu avais une pression perpétuelle autour de toi et le seul moment où tu vas dans la nature et que tu t'écoutes toi respirer, que tu es connecté avec toi-même, tu n'as plus la pression que la vie t'impose tous les jours en fait. C'est toi, tu es sous tes projecteurs à toi et tu as juste à t'écouter et à te faire du bien. C'est un peu le début de quelque chose, tu vois, pour moi, le sport. Et après, bah, tu recherches en fait cet état de plaisir. Tu ne peux pas t'en passer quand tu as une angoisse. Ah, bah, qu'est-ce que je vais faire ?
Je m'appelle Keren, Rose pour les noms intimes. Vous avez peut-être déjà entendu ma voix dans des chansons comme La Liste ou mes mots dans des livres comme Kérosène. Mais avant même de savoir chanter ou écrire, j'étais dépendante, comme beaucoup d'entre vous. J'ai voulu comprendre comment fonctionnait le cercle vicieux de la dépendance et pourquoi c'était si difficile d'en sortir. L'addiction a ses contradictions que la volonté ignore. Alors quelles sont les solutions ? Au travers de discussions décomplexées avec des invités addicts, ex-addicts, thérapeutes, artistes, auteurs, je vous propose de plonger ensemble au cœur de nos modes de fonctionnement. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Et pour ne pas en manquer une ligne, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et sur le compte Instagram Contradiction Podcast. Comédienne, influenceuse, ambassadrice de marque, professeure de yoga enchaînant les formations, les runs, les trails, les défis, abstinente d'alcool depuis de longs mois, elle est belle, souriante, positive, extra mince, marraine d'une association qui lutte contre les violences conjugales faites aux femmes. On pourrait se demander si mon invitée n'est pas avant tout accro à la perfection, au contrôle. Rien ne laisse apparaître en effet les années de fête, d'alcool, de régime ou d'excès de nourriture, Laetitia contrôle. C'est une crise, comme souvent, cette opportunité de changer, ou plutôt de devenir soi, qui ouvre la brèche de son âme. Le sport la sauve. Le yoga, qui vient du sanskrit yuj, qui veut dire union, réunifie son corps et sa tête. Mais très vite, son emploi du temps est rythmé par la sueur, les calories cramées, les endorphines sécrétées, les compulsions et les obsessions activées. Et cette nouvelle addiction porte un nom, la bigorexie. Cette dépendance à la pratique sportive ou à l'effort est parfois appelée sportoholisme ou anorexie athlétique. Elle peut aussi bien toucher les sportifs professionnels que les amateurs. Mais mon invité a tendance à penser que le problème se situe plus dans la vision que les autres ont de sa pratique plutôt que dans sa pratique elle-même. Parce qu'elle se révèle aussi dans le sport, se canalise, se répare. Elle se soigne de ses angoisses, de la consommation de toxiques et de la culpabilité qui va avec. Elle y met du sens, de la joie et de l'altruisme aussi. Comment le bien-être peut-il osciller entre béquille et danger ? Le sport est-il une fuite comme les autres ou un moyen, au contraire, de se reconnecter à soi ? Bonjour Laetitia Fourcade.
Bonjour Rose.
Est-ce que ça te va ?
Quelle très jolie introduction.
Bah, c'était difficile parce qu'on est dans le problème, la solution, et le problème et la solution, c'est moins clair que pour d'autres addictions. Il y a quelque chose de salvateur dans le sport. Et en même temps, on va parler aujourd'hui de bigorexie, qui est une addiction au sport.
C'est ça.
Voilà. Donc, quand on dit addiction, il y a souffrance parfois et danger aussi. On va en parler. Est-ce que tu as une définition de l'addiction qui te viendrait comme ça ?
Écoute, pour moi, l'addiction, c'est combler un manque par l'excessivité. Malgré les effets négatifs, on sait que ça nous fait du mal, mais on en a toujours besoin et on peut pas s'en passer. Donc c'est un peu ça.
C'est exactement ça, oui.
Pour moi, en tout cas.
Bah oui. J'ai vu sur ton Insta, il y avait marqué prof de yoga warrior. Warrior yoga, ça existe ?
Écoute, ouais, ça existe. Il y a plein de déclinaisons. Non. Je me suis formée en warrior yoga. En fait, si tu veux, il y a plein de déclinaisons de yoga aujourd'hui. Il y a plein de choses qui changent et on s'adapte un petit peu à ce que désirent aussi les gens. Donc, tu as des yogas très calmes. Tu as le yin yoga, tu as le nidra yoga, tu as le vinyasa yoga, le hatha, il y en a plein. Et effectivement, tu as une jeune femme qui s'appelle Arya et qui a monté son warrior yoga et qui forme sur un week-end, en fait, pour avoir un yoga plus dynamique, qui renforce un peu plus toutes les parties musculaires, mmh. qui va chercher un peu plus profondément, qui te fait un peu plus transpirer. Donc c'est un truc, c'est sûr que c'est pas adapté souvent pour les débutants, et qu'elle a appelé ça Warrior pour que les gens comprennent que...
Oui, au moins on n'y va pas.
Il faut se motiver quand même un petit peu, quoi.
D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'on est un peu plus dans le sport que dans la philosophie du yoga? Ou alors ça combine?
Ouais, ça combine quand même, parce que t'es toujours connecté à toi et à ton souffle. Donc c'est un peu le principe D'accord. du yoga, tu vois, c'est de se connecter aussi à soi-même. Et par le souffle aussi, d'amener des choses à ton corps. Donc malgré tout, tu gardes toujours une respiration consciente. Mais à la fois, tu te fais un peu plus violence, tu vois. Enfin, tu te fais pas plus mal.
Non, mais
mal
j'ai du mal à imaginer la violence avec le yoga. C'est deux mots antinomiques.
Non, mais c'est tenir une posture, tu vois, un peu plus difficile.
Mais
sur
c'est
même
tout toi,
un squat,
en fait. Non, mais c'est parfait. Parce
mais il n'y a pas que ça que je fais.
Non, mais Yoga Warrior, pour moi, ça t'incarne vraiment, parce qu'il y a ce côté de stabilité, de paix, de sagesse vers laquelle tu tends, et en même temps ce côté justement warrior et parfois violent. Pour en venir jusque là, déjà on va repartir un petit peu en enfance, ou okay. en tout cas quelque part où tu aurais la sensation d'avoir créé un personnage. Quel genre d'enfant tu étais?
Très angoissée. Je me réveillais chaque matin, j'avais une boule dans le ventre, et j'avais un papa qui aujourd'hui est absolument adorable, mais il a eu des années un peu dures avec nous. Parfois, quand on est parent, on a besoin aussi d'apprentissage et de comprendre plein de choses, et on se révèle bien plus tard. Donc, on a un peu souffert de son excessivité, de son irritabilité, de sa perversité, parce que, tu vois, il y avait des choses un peu dures. Et donc, je savais jamais un peu à quelle sauce j'allais être mangée, entre guillemets. Même si j'aime beaucoup mon papa aujourd'hui, c'est vrai qu'il y avait des trucs un peu durs. Tu vois, il me faisait bosser dans la cave le samedi matin, de 8h jusqu'à 11h. Quand je connaissais pas un mot dans un livre que je lisais, il fallait que je fasse 5 phrases. Il fallait que je sois la meilleure de la classe. Il fallait que je sois toujours nickel, propre, tenir bien, wow. machin et tout. Donc en fait, si tu veux, ça amène une angoisse, parce que c'est un désir qui, lui, fait tout pour que ses enfants soient parfaits, sans vraiment se rendre compte. Et puis en fait, toi, ça t'angoisse, mais parce que tu sais jamais. Pourquoi t'angoisse, c'est quand tu sais pas à quoi t'attendre.
Et c'est aussi parce qu'en fait, c'est impossible d'être parfait, peut-être.
Déjà, bien sûr. Déjà. Heureusement, d'ailleurs, parce que sinon, on s'ennuierait un peu.
Bah oui, heureusement, mais je pense que ça, c'est une grosse angoisse de vouloir être parfait. Puis, mmh. Et puis aussi, finalement, même si on n'arrive pas à être parfait, il faut quand même qu'on soit la plus de tout. Donc, la plus belle, plus la plus forte, la plus mince, la plus, bah, j'imagine la pression.
Ouais, et puis c'est vrai que voilà, t'essayes d'être parfaite, alors que c'est pas ça dans la vie. Faut pas être parfaite, faut juste être bien avec soi-même et
juste être soi.
Exactement. Mmh. Ça passe pas par la perfection.
D'accord. Et donc t'évolues comme ça.
Et donc en fait, bah très vite, je faisais du sport de combat. Je faisais du karaté et un peu de boxe française. Et ça, c'était pareil. C'était mon père qui voulait qu'on réussisse à se défendre, tu vois. Donc, il nous a mis à ces sports-là. Et puis, très vite, bah, quand tu fais un sport un peu collectif comme ça, tu dépends d'une voiture, de l'emploi du temps de tes parents. Tu peux pas y aller quand tu veux. Et je me suis dit, OK, bah, une paire de baskets, un short, un t-shirt, je peux aller courir. Donc, c'est très facile. Et très jeune, je me suis rendu compte qu'en allant courir, bah, je me sentais mieux et je revenais. Donc, quand t'as 13 ans, tu te rends pas compte.
Très jeune, ah ouais.
Ah ouais.
C'est rare à 13 ans.
Mes baskets, ouais. J'allais marcher. Enfin, je courais pas, tu vois, des kilomètres comme aujourd'hui, mais il y avait quand même une notion. Ah, quand je mets mes baskets et que je vais dans la nature ou que je m'évade,
je me sens bien.
Je me sens bien.
Et je reviens. Et là, il n'y avait pas une notion angoisse. Du tout de vouloir cramer des calories.
Ah non,
pas du tout.
Non, c'est plus un bien-être. Ouais, c'est comme si tu avais une pression perpétuelle autour de toi, et le seul moment où tu vas dans la nature et que tu t'écoutes toi respirer, que tu es connecté avec toi-même. En fait, t'as plus l'impression que la vie t'impose tous les jours, en fait. C'est toi, t'es sous tes projecteurs à toi, et t'as juste à t'écouter et à te faire du bien. Et en fait, c'est un peu le début de quelque chose, tu vois, pour moi, le sport. Et après, bah, tu deviens, tu recherches, en fait, cet état de plaisir. Tu peux pas t'en passer quand t'as une angoisse. Ah, bah, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je faisais un peu de muscu, je faisais aussi de la boxe, je faisais des trucs, mais c'est vrai que la dimension nature, sport nature, a pris une grosse dimension dans ma vie qui est pour moi indispensable. Tu vois, c'est un peu comme si dans la nature, tu vas trouver ta vraie nature.
Wow.
D'une certaine manière.
Tu les associes les deux, le sport ouais. et la nature.
Aujourd'hui,
souvent.
Ouais.
Ouais. D'accord. C'est magnifique. Mais je trouve ça assez fou d'avoir ça aussi jeune, en fait. Parce que c'est un âge où c'est très dur. Je vois quand on est maman de dire à ses enfants d'aller plutôt s'aérer plutôt que de regarder un truc sur YouTube. C'est vrai. que cet âge-là, je me dis souvent, la jeunesse, en fait, la jeunesse, elle sait pas quoi. Elle sait pas ce qui est important. Et quand, c'est-à-dire que toi, tu sais déjà ce qui est important. C'est quand
tu
même
sais
extraordinaire.
Ce qui te fait du bien.
Ouais. C'est quand en même fait. Merveilleux, ça, déjà. À quel moment le terrain est devenu glissant, où tu sens qu'il y a quelque chose très vite?
Très vite, aussi. Aussitôt que le, si tu veux, à 13 ans, ce qui est bien, c'est que la parole est libératrice et que j'arrive maintenant à en parler, tu vois, sans souci. Mais à 13 ans, je fais une tentative de suicide pour qu'on me dise allô, on me regarde, on m'écoute. Tu vois, il y avait plein de choses que mon père était vraiment hyper dur. On parlait pas, il y avait pas la possibilité de communiquer, en fait, si tu veux. C'était assez dur de communiquer. Et donc, j'avais très peur de mon père. Il y avait une réunion de parents profs et j'étais pas la meilleure de la classe. J'étais très bavarde, j'étais très fofolle, un peu à l'école et tout. Et je flippais de me faire, de m'en prendre un peu plein la figure. Et du coup, j'avale la pharmacie pendant qu'ils sont en réunion. Et c'est ma sœur qui me trouve. C'est ma sœur qui comprend qu'il y a un truc.
C'est quoi la pharmacie? Il y a quoi dedans?
Dedans, il y a 1000 boîtes, mais je sais même pas ce que c'est.
Je sais pas ce que c'est.
Juste, j'avale tout, je comble, tu vois, cette peur et j'avale en me disant peut-être que ça va me sauver, il va pas me taper, il va pas m'engueuler, j'ai pas. J'avais hyper peur, en fait.
Il va avoir de la peine.
Ouais, je sais pas. Enfin, en tout cas, j'avais peur. J'avais peur et peut-être que par ce biais-là, et ben, il allait peut-être comprendre, tu vois, mais il y a tellement de choses inconscientes à 13 ans que tu fais un acte dont tu te peux pas te rendre compte à 13 ans de ce que tu fais.
Bah ouais.
C'est pas possible. Donc, tu veux pas mourir avec des cachets, mais tu vois, je suis pas là en train de sauter par une fenêtre ou me pendre.
C'est un appel au secours, juste.
Exactement. Et du coup, cet appel au secours fait qu'il l'a pas entendu. Et au bout de 3 jours, ils m'ont récupéré à l'hôpital. Donc, après 3 jours. Et le psy dit à mon père, écoutez, il faut qu'on parle avec elle. Et mon père dit, non, ma fille n'est pas malade. Et on est rentré, on n'en a jamais parlé. Donc, du coup, OK. Donc, on se retrouve à table. Il se passe rien.
Waouh.
Et en fait, bah, du coup, tu recommences. C'est-à-dire que, et j'ai commencé, moi, à boire assez jeune. Pour combler un vide, donc ça a été un peu ma première addiction. J'avais besoin de combler un vide par cette excessivité, tu vois, qui me faisait du mal, mais en même temps qui me faisait du bien, parce que ça m'anesthésiait, en fait. J'avais, ok, en fait, je vais bien. Ah ouais, c'est cool. Et à 16 ans, je fais un coma éthylique chez moi.
Parce que tu buvais chez toi?
Chez mes parents.
En cachette, genre.
Ouais, en cachette. Je me suis pris une bouteille de planteur, tu sais, avec le perroquet dégoûtant, là, le truc affreux qui doit coûter 10 francs. Et puis je bois dans ma chambre, mais tu vois, c'est pareil, tu te rends pas compte. Et c'est quand tu l'analyses avec le temps que tu te dis, il y avait vraiment un vrai problème.
Oui,
en fait.
C'est
tu vois,
ça.
Il y a un vrai vide.
Je vois très bien ce genre de situation où sur le moment, quand on a cet âge-là, on se dit que c'est normal, en fait. C'est bizarre. Hein. Et après coup, tu te dis, mais c'était un énorme problème de se mettre dans sa chambre avec sa bouteille d'eau.
Ouais, surtout qu'on regarderait nos enfants qui feraient ça à 13 ans. Jamais de la vie aujourd'hui, on rentrerait en disant.
Attends, tu m'as dit
impossible.
16, hein?
Il y a 13, la première avec les cachets, 16
oui,
l'alcool.
D'accord.
Et donc, les pompiers, les machins, et les pompiers arrivent et ils disent, faut la faire vomir. Et mon père, je me souviens de flashback où il me faisait tourner dans le jardin, on faisait le tour du jardin. Et le lendemain, pareil, je me lève et, tu nous as fait bien rire hier, hein, on aurait cru que tu avais mangé du couscous. Je sais pas ce que tu as mangé, mais. Non, mais je me dis, c'est pas possible.
C'est pas possible.
Ouais. Et du coup, je recommence à 20 ans. Et cette fois, là, c'est plus dur, tu vois. C'est, j'associe vraiment. Là, je prends des trucs hyper forts. Alors, je sais plus ce que c'était, mais de l'exomil, enfin, tu vois, avec de l'alcool, enfin, n'importe quoi. Et en fait, je me suis jamais soignée. En gros, depuis quelques temps. Mais c'est fou parce que la fille, elle est hyper bien faite. C'est que j'ai fait un burn-out le 1er novembre l'année dernière, et c'est de là que tout s'est révélé et tout s'est ouvert. Tu sais, c'est un peu ta nuit noire de l'âme où, à un moment donné, tu vas toucher tellement le fond. Tu sais, le souffle, c'est, tu commences par un souffle, t'inspires à la vie, t'expires, tu meurs. Bah, moi, c'était un peu ça. Tu vois, j'allais expirer au fond de l'eau et je suis remontée à la surface et j'ai pris une nouvelle inspiration. Et là, il y a énormément de choses qui se sont ouvertes de manière hyper positive.
Tu dis, c'est grâce à une crise, donc un burn-out, que j'ai pris conscience de mon addiction. C'est-à-dire, comment il arrivait, ce burn-out?
Bah écoute, 1er novembre 2022, je peux pas me lever. Mon corps fait 200 kilos, j'arrive plus à me lever. Moi qui fais du sport à 6 heures, moi qui peux bosser 15 heures par jour, fin de tournage, tu m'amènes, je te fais sans problème des galipettes, tu vois, sur un elliptique. Bah là, 200 kilos, il se lève, je bouge plus. Et en fait, là, tu te rends compte que, en fait, j'étais plus à ma place. tout ce que je faisais n'était plus en corrélation avec qui j'étais. Je travaillais.
Tu travaillais dans un cabinet de prothésie dentaire, c'est ça?
C'est ça. Je travaillais dans un cabinet dentaire pour gagner ma vie. J'avais mis de côté mon métier de comédienne parce que j'avais pas le temps de faire des castings. J'étais pas à ma place, même si c'est un métier où tu donnes de ta personne, tu donnes du temps et que t'as plein de patients, c'est hyper intéressant. Et la personne avec qui je travaillais était super. C'est pas le problème, c'est que juste, mais je suis pas à ma place. Et en fait, tous les jours, tu vas bosser, tu dis, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et à force de dire ça va pas, c'est tout à fait ça. C'est à des pensées tellement négatives qu'à un moment donné, le corps, il en peut plus. Et comment retrouver ta place en disant comment ça va? J'ai fait ce burn-out que j'aime bien appeler une décompression. Je trouve que c'est vachement plus intéressant de parler de décompression que de burn-out. Et c'est juste, où est ta place? Et ta place, c'est, t'as arrêté l'alcool. Pourquoi t'as arrêté l'alcool? Pourquoi tu t'arrives plus à faire tes castings? Pourquoi tu subis comme ça tout le temps quelque chose qui te convient pas? Et puis voilà, le corps lâche, ta tête te lâche, tout lâche, parce que je pense que c'est la pas
tête.
Ta place.
Je pense que c'est la tête. Le corps suit pas, comme tu disais, mais la tête, le burn-out, c'est vraiment off.
Mais il y a quelque chose de très aussi qui s'accompagne à ce burn-out, c'est que j'ai rencontré mon chéri. Et le fait d'être pour la première fois avec quelqu'un de normal, quelqu'un de sain, quelqu'un qui t'aime pour ce que t'es, quelqu'un qui pense à toi en premier, qui... j'ai eu beaucoup d'hommes qui étaient très égoïstes dans le métier même d'artiste, tu vois. C'est un métier très les hommes sont ou les femmes peuvent être très égoïstes, très tournés sur eux. Et pour la première fois, je me sentais soutenue, comme si le corps disait non mais ok, lâche, parce que t'es plus toute seule. Et ce mec là, en fait, c'est ce qui m'a permis de me lâcher, parce que putain, mais il est là pour moi, je suis plus tout ça. Il y a inconsciemment, grâce à lui, j'ai fait un travail vraiment énorme.
Et il était là pour toi, en fait, pas pour ton corps ou pour tes fêtes.
Il était là pour ce que j'étais. Et il a tenu, parce que j'ai envoyé bouler mon fils. Tu vois, c'est là où tu te dis, ah ouais, ça va loin. J'ai envoyé bouler mon fils, j'ai dit, va chez ton père. J'avais que mon chat que je supportais. J'ai dit à mon mec, je sais pas où on en est, on verra. Et il a pas lâché. Il ne m'a pas lâché. C'est-à-dire, il a toujours été présent, il a pris le temps, la patience. Et je pense que c'est vraiment grâce à l'amour dans la vie que tu te reconstruis. Et c'est ça, ma décompression, je l'ai réussi à la faire parce que quelqu'un m'aimait enfin pour ce que j'étais. Donc à moi de m'aimer maintenant et d'ouvrir les vannes, quoi, je pense.
En fait, il y a vraiment quelque chose autour de la quarantaine et ça, on ne peut pas le nier. Vraiment. On a le même âge, hein. On est 78 toutes les deux. Je sais pas, excuse-moi, moi j'ai pas de mal à dire mon âge, toi oui.
Ah non, plus maintenant, ça y est, je l'assume maintenant.
Je sais pas, on dit que c'est mal. Non, et on est 78, on a un mois d'écart en fait. Hein.
Toi, t'es de quel mois?
24 mai, toi 20 avril, c'est ça?
Oui, c'est ça.
La quarantaine, honnêtement, même maintenant, j'ai écouté des podcasts autour de la spiritualité, plein de choses qui m'intéressent en ce moment, la religion, pas la religion, mais la spiritualité énormément, tout le monde l'a compris. En fait, il y a un truc avec les métaphores de la Bible qui sont, ce n'est pas la vraie histoire, mais c'est des paraboles beaucoup, l'Ancien Testament, et il y a cette notion de 40 ans dans le désert. Comme si, et souvent il y a les 40 ans, il y a souvent cette histoire de quarantaine. De mise en quarantaine.
Mise en quarantaine, la crise de la quarantaine.
Et c'est vraiment ça. Et moi, dans le livre Kérosène, j'avais écrit la crise de la quarantaine, c'est pas la crise, la peur de mourir, c'est la peur de mourir con. Et donc, il y a un podcast qui s'appelle 40, et qui est produit par Double Monde. J'espère que tu seras invité parce que franchement, moi, il m'a révélé à moi parce que c'est quelque chose, tellement fou ce qui se passe à ce moment-là, et je trouve ça génial d'avoir eu l'idée d'en faire un podcast, parce que tout le monde est sûr que c'est genre soi-même qui se révèle à soi, mais en fait je crois qu'on est comme avec un mode d'emploi, comme si dans notre conscience il y avait un mode d'emploi et qu'on l'oubliait tout ce temps, et qu'il y a la conscience, on prend conscience à un moment et on arrive à lire le mode d'emploi et, ah, en fait je suis ça. Et en fait, j'ai vécu ça. Et c'est complètement fou. Et ce que je trouve dingue, c'est qu'on fasse des psychanalystes très jeunes, bon, pourquoi pas. Mais en fait, on comprend des choses. On dit, ah oui, mon père, ma mère, on est en colère. Mais on n'a pas la maturité pour abandonner ça. Se dire, ok, ma mère, mon père m'a fait
accepter.
Ça. Oui,
c'est tout est jeune, question d'acceptation et de pardonner. En fait, si tu pardonnes, t'acceptes.
Mais est-ce que jeune, tu peux pardonner, accepter? C'est très rare.
Voilà. En fait, tu peux pas à 20 ans demander impossible. D'avoir un cerveau de quelqu'un de 40 ans. Et avec l'expérience, avec le recul.
Il n'y a que impossible. Le pardon, en fait. Parce que le pardon, c'est le vrai, celui avec amour. Hein, celui qui dit je te pardonne, pas genre ok, t'es excusé. Un pardon où tu mets de l'amour dedans, hein, je pense, qui te libère toi, en fait.
Oui, c'est
la
ça.
La personne, bon, voilà. Hein. Et la colère, on sait tous que c'est un poison qu'on boit en pensant nuire à l'autre. Donc, c'est vraiment de ruminer
oui,
tout
c'est
ça.
C'est toujours nous, hein, ces émotions qui nous traversent tout le temps, que ce soit la colère.
Mais je pense que, ouais.
Tu sais, c'est des sentiments vraiment qui ne nous appartiennent pas. Hein. Moi, j'aime beaucoup, parfois, quand je suis en colère, et on me dit, mais t'es en colère. Je ne suis pas en colère, je suis traversée par un sentiment de colère. Ça n'a rien à voir, il va me quitter. Je vais être traversée par un sentiment de plaisir. Mm-hmm. Il peut me quitter aussi.
Mais
tu vois, d'assimiler
tout
absolument... on n'est pas un état, mmh. en fait. On est traversé par une émotion et parfois, c'est très bien de les laisser venir et de les accepter. Tu vois, comme ce burn-out, moi, que j'ai mis du temps à accepter et enfin, que je n'ai pas compris tout de suite. Et en fait, il a été... ta seconde vie commence quand tu te rends compte que tu n'en as qu'une. C'est vraiment ça, tu vois, ce titre, il est vraiment... C'est tellement juste. Et puis, tu renais, quoi. Il y a vraiment une renaissance. Et du coup, tu comprends plein de choses. Parce que moi, j'avais arrêté de boire, par exemple, avant ce burn-out, en 2021. Le 25 décembre 2021, j'arrête de boire.
Alors, pourquoi?
Parce que...
Si on n'arrête pas de boire comme ça, je te le dis.
Non.
Les gens qui peuvent boire, ils boivent.
Non, mais parce que c'est une addiction. Parce qu'en fait, ça me fait du mal.
C'est-à-dire, tu buvais comment?
Mais moi, je suis la dernière à dire « Allez, on ouvre une dernière bouteille !» En plus, comme j'adore le bon vin, le bon champagne, c'est jamais dégoûtant. Donc, c'est toujours des super bouteilles. Moi, laisser un super Bourgogne de côté, c'est pas possible. Puis, je suis la dernière à dire « Allez, un petit Dijon !» Et en fait, tu t'arrêtes pas. Mais tu te détruis, en fait. C'est parce que tu fais des choses aussi sous alcool que moi, j'aurais jamais fait si j'avais pas été alcoolisée. Tu vois, je me suis mise dans des états à 20 ans qui sont pas normaux. Mais qui sont liés aussi à ce manque que j'avais de mon père et de, tu vois, d'un vide, en fait. Et c'est pareil, pourquoi je buvais? Pour combler encore ce vide. Donc, du coup, je me détruisais à travers l'alcool.
Et tu te détruisais, tu veux dire, quand tu parles de choses que tu faisais, c'est-à-dire, tu parles de ta réputation ou de choses
que
t'as pas envie qu'on pense de toi, en fait.
Je pense que tu fais des choses que tu ferais pas, à jeun.
Quoi? Enfin, je veux pas de précisions.
Non, pas des précisions, mais par exemple, tu vois, parfois, tu peux donner des avis alors qu'on te l'a pas demandé, tu parles fort, tu te fais remarquer, tu penses que t'es drôle, mais en fait, t'es pathétique.
Oui, il y a ça, il y a ce côté drôle et pathétique.
Et puis, tu peux aller loin. Moi, je peux aller loin, je suis allée loin où j'ai pris de la drogue, j'ai essayé la drogue, et puis bah, c'est quand tu bois,
cocaïne,
t'es limite prêt à tout pour avoir un trait de coke et te redresser, quoi.
Bien sûr. Surtout quand t'es bourré, franchement, t'es prêt à tout. Ouais,
tu pourrais être. Ouais, t'es prêt à tout, quoi. C'est-à-dire, tu pourrais embrasser quelqu'un même si tu l'aimes pas, tu pourrais faire des trucs.
Ça peut arriver.
Il y a vraiment un côté, parce que t'es dans la destruction pour moi, il y a vraiment un truc. Quand t'as l'alcool festif, c'est complètement différent. Quand tu bois un verre, deux verres, c'est cool et tu sais t'arrêter. Il y en a qui arrivent, tu vois, parce qu'ils ne sont pas addicts à l'alcool. Il y en a qui prennent plaisir à boire un verre ou deux et puis qui s'arrêtent.
Il y a des alcooliques qui ont l'alcool très bon aussi. Hein. Bon, et tant mieux pour eux. Hein, parce que c'est une peine d'être alcoolique, autant le vivre bien. Mais en tout cas, moi, je sais que je connaissais par exemple un alcoolique qui ne buvait que deux fois par an. Donc, il faut savoir qu'il y a toutes sortes d'alcooliques, deux fois par an comme éthylique. Mais ça s'appelle un alcoolique. Quelqu'un qui, quand il commence à boire, finit comme éthylique, on est alcoolique, c'est-à-dire on ne sait pas boire. Ça veut dire que quand tu commences, tu peux pas t'arrêter, il y a un problème. Donc c'est pour ça que cette personne buvait que deux fois par an d'ailleurs. Donc toi, tu décides d'arrêter puisque tu sais qu'il y a un problème.
Je décide d'arrêter parce que je suis avec mon amoureux et que il me raconte donc 24 décembre. Bah 24 décembre, tu prépares à manger, tu ouvres le champagne. Puis ça passe vite en cuisinant. Puis après, tu prends tes fruits de mer, tu prends du blanc. Et puis à la fin, bah, y a le fromage, il y a les cadeaux. Donc tu prends le rouge. Ça fait quand même trois bouteilles à deux. Puis bah à la fin, Letty, elle est partie, un petit Dijon, allez. Et puis le lendemain, il me raconte, il me dit « Ah, c'était drôle hier, hein ?» Quoi ? Il me raconte, et là, je lui dis « Non, mais en fait, c'est plus drôle. » C'est plus drôle, quoi. Et 25 décembre, comme si, tu vois, il y avait un déclic, et je me dis « Ok, moi aussi, je veux renaître. » Tu vois, je suis pas forcément croyante, je crois pas en Dieu, je crois plus en des choses dans l'univers, ou des âmes, des choses
surtout
comme ça.
Surtout que Jésus n'est pas du tout né un 24 décembre, c'est ça le pire.
Un 25
paraît... Non, il paraît que c'est...
Tu vois, en plus, ouais. Et donc voilà, je me dis, c'est plus drôle. Non, c'est plus drôle. Je veux arrêter.
C'est pathétique, c'est ça le mot. Tu l'as bien dit. Pathétique. Et c'est bien si les gens se rendent compte de ça aussi, c'est que ce qui était drôle à 20 ans, des fois, il n'est plus à 40. Et surtout, quand on se croit drôle, peut-être qu'il y a... Moi, on m'a montré des vidéos parfois de moi. Et ça, c'est une super thérapie. On le voyait d'ailleurs dans les émissions de télé-réalité. Là, le grand frère, Pascal le grand frère, il montrait des vidéos des gamins en train de s'énerver sur leurs parents, de parler mal. Ils se reconnaissaient même pas. Et c'est ça qui les faisait changer. En fait, je crois qu'on sort de nous-mêmes. Et on ne sait pas qu'on fait ça. Non.
On n'est plus nous-mêmes du tout. On vient, je pense qu'on vient vraiment se détruire. À puissance maximum, tu vois. Donc, on peut pas être nous-mêmes. Parce qu'on fait que essayer de se construire dans la vie. Et avec les addictions, on fait que essayer de se détruire, tu vois. Donc, il faut vraiment comprendre les choses et essayer de, comme on disait, il y a que l'âge, le temps, l'expérience.
C'est une prise de conscience. Donc, il y a le mot conscience. Et je crois que la jeunesse ne l'a pas, malheureusement. Mais bon, c'est important quand même de le savoir parce que c'est beaucoup plus difficile d'aider des jeunes. Beaucoup plus difficile parce que c'est quelque chose qui vient toucher vraiment à une maturité, à une expérience, à une conscience. Et je compatis à 2000% avec les parents d'enfants qui souffrent d'addiction parce que je saurais pas quoi faire. C'est très compliqué parce que moi, j'arrive à aider des gens en leur parlant de choses intelligibles, compréhensibles, qu'on a vécu par expérience et que peut-être l'autre va identifier sur telle ou telle expérience. Mais là, quand tu es jeune, t'as pas beaucoup vécu. Tu peux pas identifier. À ce moment-là, donc toi, tu décides d'arrêter. Et qu'est-ce qui va t'aider? Comment est-ce que tu décides de remédier à ça? Et comment tu vas pallier? Parce que jusque-là, en fait, ton vrai problème, c'est ce vide et cette angoisse et ces choses que tu veux anesthésier. Donc, comment tu vas faire?
Comment je vais faire?
Je te donne en mille.
Non, mais alors déjà, le sport. Enfin, tu vois, le sport me sauve. Il n'y a pas que ça parce que j'ai écouté beaucoup de podcasts, notamment les tiens qui m'ont fait énormément de bien. Merci. Tous.
Ça t'a un peu révélé. Enfin, je me rappelle quand tu m'as écrit, j'avais l'impression que tu avais pris conscience, justement.
Mais je ne parle que de tes podcasts, pas pour dire aux gens de vos podcasts, c'est vrai. Parce que c'est, à chaque fois, c'est une leçon. On comprend, c'est des invités très intéressants qui ont le même vécu, qui ont vécu les mêmes choses que toi, donc tu te sens moins seule. Parce que parler avec un addictologue qui a jamais été addict à quoi que ce soit, c'est hyper dur. Parler à un psy qui a jamais été battu, c'est hyper dur. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Alors que là, on vient trouver... Moi, j'ai trouvé des réponses à mes questions. Ça m'a permis de rencontrer des alcooliques anonymes, où je suis allée, grâce à toi. Pour moi, c'était inenvisageable d'aller au AA. Pour moi, il n'y avait que les fous qui allaient au AA. Tu vois, que les gens... les dépravés, tu vois, c'est terrible d'avoir cette image-là, mais c'était l'image que j'en avais il y a quelques années, tu vois, parce
même
que...
Même de l'alcoolique.
L'alcoolique,
c'est un ivrogne pour nous.
Ouais, et puis c'était pas des gens normaux. Puis en fait, tu te rends compte que bah, tu vas dans ces groupes de paroles et qu'en fait, les gens te comprennent, chaque mot est compris, alors que tu pourrais mettre 10 heures à parler à tes parents ou à des gens autour de toi et personne ne comprendrait.
C'est fabuleux, ça. Hein.
C'est fou, parce que tu prends la dimension des amis. Au début, je disais, quoi, c'est nos amis, vous êtes tous mes amis. Mais en fait, je comprends la dimension d'amis. C'est que c'est des gens qui te comprennent. Et t'as pas besoin d'expliquer plein de choses. Ils vivent à travers leurs mots, tu te reconnais très souvent aussi dans plein de choses. Donc,
et ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas les mêmes histoires. Donc, à la base, on est différents tous et on était différents dans notre façon de consommer. Par exemple, il n'y a pas une personne que j'ai rencontrée qui consommait comme moi. Même toi qui peux se rapprocher, l'alcool, la cocaïne, c'est pas du tout la même façon, c'est pas les mêmes raisons, c'est pas, tu vois. Et en fait, personne n'a la même façon de consommer, donc personne ne se rétablit de la même façon non plus. Mais il y a deux points communs, on est malade et on veut se rétablir. Et ça suffit.
Bien sûr. Moi, si tu veux, après donc l'alcool, j'ai toujours fait du sport et donc pourquoi? Parce que déjà je ressentais ce besoin. Et en fait, tu vois, au départ, il y a un truc qui est bien, c'est que la tête veut quelque chose, c'est-à-dire que la tête veut sortir en fait de cet état. Et donc le corps, en fait, c'est ton outil. Et puis un jour, la tête, elle veut plus, mais c'est le corps qui demande. Donc c'est quand même un cercle vicieux parce que le corps réclame cette dose, c'est un cercle vicieux parce que ça s'arrête jamais. Mais à la fois, ça fait tellement du bien et à travers le sport de pouvoir, tu vois, sentir un rétablissement, de sentir une prise de conscience, de sentir que tu te sens mieux. Et si tu veux, moi, le sport commence à prendre une place où je peux pas m'en passer. Mais je passe par une phase. Je connaissais pas le terme bigorexie il y a 7 ans. J'ai appris en plus qu'il avait été reconnu par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, en 2011, tu vois, c'est pas vieux. En 2018, on en parlait à peine, je crois qu'il était même pas dans le dictionnaire en 2018, tu vois, donc c'est vraiment pas vieux. Et pour information, donc qu'est-ce que c'est que la bigorexie? L'étymologie du mot bigorexie, tu dois connaître, mais peut-être que c'est bien de le dire. Donc big, c'est gros, c'est grand. Orexie, c'est appétit. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que c'est pas le contraire de l'anorexie. Tu vois, de grand appétit,
hyper
tu dirais, tiens, ça doit être la boulimie. Non, Et en fait, je me disais, mais attends, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et t'as beaucoup de gens qui disent, mais attendez, on comprend pas ce terme, même pourquoi il a employé bigorexie? Et je me suis dit, mais en fait, c'est l'appétence au sport. Mm-hmm. Tu vois, tu ne peux pas t'arrêter. Parce que le sport, c'est bien le run, mais je ne fais pas que ça. Tu vois, je fais du yoga, je fais la remise en forme, j'adore aller marcher, l'escalade, du bateau. Enfin, tu vois.
Non, mais tu vas nous dire une journée type de Laetitia Fourcade. On attend la journée type. Vraiment, moi, en tout cas, je veux savoir.
Mais la journée type, il y a 7 ans, effectivement, c'est-à-dire que je me détruisais dans le sport.
Ah, c'est-à-dire que le sport n'est pas arrivé là, au moment où tu arrêtes l'alcool. C'est pas là que c'est le plus grave, en fait. C'était il y a 7 ans.
Non, moi, j'ai toujours fait un petit peu de sport. Et en fait, je me suis rendu compte en soignant une addiction, donc en supprimant justement l'alcool, j'ai compris ce que c'était une addiction, grâce à tout ce que tu lis, parce que quand tu lis, bah, c'est comme si tu t'adressais à une tierce personne, enfin tu vois, il y a plein de trucs. Et c'est là que tu comprends. Et donc du coup, tu comprends aussi ton rapport au sport. Et là, tu te dis, non mais attends, c'est vrai qu'il y a 7 ans, je faisais des compétitions de course, il fallait que j'arrive la première, j'arrivais souvent dans les deux, trois premières, je faisais des Spartan Race, c'est un peu les courses du combattant dans la boue, machin. Ça m'est arrivé d'arriver deuxième sur une course dans ma catégorie d'âge. Je fais le trail des Templiers sur 38 km, 2005 de dénivelé. J'arrive deuxième de ma catégorie d'âge. Donc, j'étais au taquet, tu vois.
Avec tes petits 35 kilos.
Un peu plus, mais avec mes 50 kilos, tu vois.
Non, tu ne feras pas croire que tu fais 50 kilos.
Bah, si.
Mais tu es très grande, en fait.
Même pas, mais peut-être que les os un peu lourds. Mais bon, peu importe, tu vois, c'est surtout que...
On va en parler un petit peu quand même du poids, parce que je pense que c'est important aussi.
Ouais, mais je pense que dans la bigorexie, souvent, c'est plutôt... T'essayes de... La bigorexie, qu'est-ce que c'est? C'est atteindre une masse musculaire, tu vois. C'est pas ressembler à rien. Et là, c'est plutôt de l'anorexie, tu vois.
Oui, bien sûr.
La bigorexie, c'est que tu vas chercher sculpter ton corps. C'est vraiment lié à ça. Et souvent, tu t'isoles aussi. La bigorexie, tu peux reconnaître quelqu'un qui est bigorexique parce que, bah, il s'isole.
Il fait des sports plutôt solitaires?
Plutôt solitaires. C'est-à-dire qu'en fait, il met de côté plutôt la vie. Même sa vie professionnelle, tu vois, est entravée, sa vie familiale. C'est quelqu'un qui, par exemple, le dimanche midi, peut pas rester à table. Il va avoir son bien-être, c'est d'aller refaire du sport, tu vois. C'est là où il faut se poser des questions.
Dès qu'on mange ?
Non, mais tu sais, de rester en famille et de dire non, mais il faut que j'aille faire du sport. Quand tu arrives même pas à trouver le bien-être en famille, mais plutôt dans le sport à côté. C'est-à-dire que tu n'arrives même pas à partager avec tes proches.
Ah non, mais c'est comme la drogue, exactement, familiale. Du coup.
Parce qu'en fait, une addiction, tout tourne autour de cette addiction. Ta journée est rythmée autour de l'addiction. À quelle heure je vais prendre mon verre? À quelle heure où je vais faire ma séance de sport? Quand est-ce que je vais pouvoir y aller?
Ce qui est génial, c'est que c'est gratuit pour le sport, donc. C'est quand tu veux, où tu veux, seul. Donc, c'est quand même une addiction. Et en plus, si tu le fais plus ou moins bien, ça peut être bon pour la santé aussi. Donc, en fait, je crois que la contradiction de cette addiction, c'est vraiment ce bien-être que ça procure et aussi le fait que c'est pas censé nuire, le sport.
En fait, ça
qu'est-ce
peut
qui
te
nuire.
Qu'est-ce qui nuire, ce qui peut nuire, c'est la blessure. En fait,
tu te blesses souvent.
Tu peux te blesser.
Est-ce que tu as des douleurs chroniques?
Alors, moi, personnellement, non, mais peut-être que oui, il y en a qui en ont.
Et tu en auras peut-être aussi.
Alors, moi, j'ai déjà eu des déchirures du ligament, tu vois. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est quand tu fais beaucoup de sport ou quand tu es addict à quelque chose, c'est de comprendre pourquoi, à ce moment-là, tu te blesses. Pourquoi, il y a 2 ans, je me blesse, j'avais fait le tour du Mont Blanc en sac à dos. Avec un ami, on avait quand même envoyé un peu du lourd, tu vois, au lieu de mettre 10 jours, on en a mis 8, on se faisait 30 bornes par jour, enfin bref, 14 kilos sur le dos, c'est génial, c'est super, toujours pareil, t'es en nature, hein, donc tu vois, c'est... Et je me blesse, je me fais une déchirure du ligament juste après. Pourquoi à ce moment-là, tu vois? Et il y a plein de petites choses dans la blessure qui sont intéressantes.
Pourquoi alors?
Pourquoi je me suis blessée? Je pense que le corps te parle et tu ne l'écoutes pas. En fait, c'est que le corps t'alerte par des inflammations, les tendinites. Tu sais, c'est un peu les premiers signes. Ça peut être un peu les premiers signes des petites tendinites, des problèmes récurrents. Et puis un jour, ton corps aussi te dit stop. Stop, c'est plus possible. Donc, c'est lui qui met un.
Parce que tu l'écoutes ou pas.
Non, tu l'écoutes. Enfin,
à
moi,
ce moment-là,
l'écoute
quand
pas.
Tu te blesses.
Alors, j'ai la chance d'avoir rencontré un homme génial qui, aujourd'hui, on est ensemble.
Il est posturologue.
Exactement. Et ça a changé ma vie. Vraiment, parce que j'allais chez des ostéos tous les mois, et donc j'arrive chez lui, sûre de moi, j'ai le meilleur ostéo. Il me dit, ah bon, vous avez le meilleur ostéo, vous le voyez tous les combien? Je dis, bah tous les mois. Ah oui, bah, oui, c'est sûr qu'il doit être super, parce qu'un bon ostéo, tu le vois deux fois par an, hein, tu vois. Si tu le vois tous les mois, ça veut dire que t'as un problème qui n'est pas soigné. Et souvent, ça vient de ta posture, d'où la posturologie et faire un bilan postural, c'est hyper bien, surtout pour les sportifs. C'est que t'as un déséquilibre, toi, souvent au niveau des dents, au niveau des yeux, donc au niveau de, d'autres choses. Et en fait, tu rééquilibres ta posture grâce à un traitement que eux mettent en place, les posturologues, qui dure à peu près un an. Mais quand tu le fais bien, ça marche. En tout cas, pour moi, ça a marché. Pour d'autres, ça marche. Pour d'autres, peut-être que ça marche pas. Mais pourquoi je me suis blessée à ce moment-là? Je le rencontre quand même à ce moment-là, au moment aussi où je veux arrêter l'alcool. Tu vois, il y a tout un truc où tu... En fait, je me suis... Comme si j'avais ouvert plein de choses et que ça y est, ça pouvait venir.
Ça y est.
J'ai envie d'être en corrélation avec moi-même, j'ai envie de m'écouter, j'ai envie de me faire du bien. Et mais pour moi, une blessure, il y a un facteur émotionnel et un facteur physique.
Je pense qu'il y a une unification à faire et de se dire que le corps, il est au service de la tête est au service du corps.
Le corps, c'est le premier habitacle de l'homme, hein, c'est le tien. Donc,
c'est autant ton vaisseau,
être bien chez
soi.
Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Donc,
mais en même temps, c'est un temple. Est-ce que tu lui mettrais des bornes comme ça dans la gueule au temple? Il faut aussi, non, mais il faut aussi prendre conscience. En effet, c'est ton habitat. Parce que je sais que je mange très, très sain, que tu, en fait, t'as une vie très saine. Est-ce que tu n'as pas l'impression que quand même tu le maltraites, ton corps, parfois? Ou est-ce que c'était avant, ça?
Alors, j'ai pas l'impression de le maltraiter.
D'accord.
Plus aujourd'hui, même si je fais beaucoup de sport. Mais tu vois, c'est un bigorexique, on estime que c'est 10 heures de sport par semaine.
Tu fais pas 10 heures?
Non, je fais pas 10 heures. Alors après, il y a 10 heures, il y a des gens qui me disent, attends, 10 heures, c'est rien. Mais si tu fais, par exemple, une heure de crossfit, le lendemain, une heure de crossfit, après du cycling, après du crossfit, et tu vois, tu refais tout le temps la même activité... Là, tu peux te poser des questions. En revanche, si tu fais un yoga, un massage, tu vas marcher,
fais
de l'escalade.
C'est considéré comme du sport.
Ouais, un
maintenant.
Massage sportif, écoute.
Ah oui, d'accord. Je veux bien le faire.
Non, mais tu vois, si tu te dis le sport m'a pris 10 heures, mais ces 10 heures, ce n'est pas que crossfit.
Non, ça me paraît pas fou, 10 heures,
tu
moi.
Tu vois. Il paraît qu'il y a un signe d'alerte à regarder, à écouter, à se dire tiens, ça fait quand même. Quand tu te fais du mal pendant 10 heures.
D'accord.
Plutôt. Après, quand tu équilibres ça, piscine, enfin, tu vois, encore. Tout est une question d'équilibre.
Et en termes de masse corporelle, vraiment, par exemple, est-ce que tu manges suffisamment en fonction de ce que tu dépenses? Est-ce qu'il n'y a pas aussi ça en termes de danger? Est-ce que ce n'est pas un truc qui pourrait alerter? Je ne parle pas notamment de toi, mais en général, est-ce que ça ne devrait pas alerter quand même d'être un point en dessous de son indice de masse corporelle? J'en sais rien. Et de surtout de dépenser plus de calories que ce qu'on en mange par jour.
Moi, je ne dépense pas plus que je n'en mange. Ça va très vite, hein, tu sais, c'est... Comme j'ai des addictions, je suis addict au chocolat, je mange une tablette par jour, tu vois, je ne peux pas m'en passer au petit-déj, le midi, le soir. Ça fait 3 jours que j'ai arrêté le sucre, je ne pense qu'à ça, tu vois, juste pour essayer de comprendre ce que c'est une addiction et essayer de
non,
lutter
mais c'est
parfois
ça que je veux
un
dire,
peu, tu vois.
C'est-à-dire, ce sport-là, il vient aussi contrebalancer des excès de nourriture, par exemple, ou de sucre.
Bah, disons que si tu fais une bonne bouffe, moi je trouve ça hyper sain.
Ah oui, moi aussi.
Tu vois, moi je fais aussi du sport parce que j'adore manger.
Voilà, c'est ça que je veux savoir.
J'adore manger. Après, bien sûr, je fais attention parce que j'aime aussi. Moi j'ai une maman qui est très très forte. Donc tu vois, j'ai fait aussi une inversion quand j'étais gamine.
Moi aussi, elle est forte, ma maman.
Moi, elle est très très grande.
Non, mais je parle forte.
Ouais. Ah, forte, elle est forte. Ouais, moi aussi, c'est une guerrière.
C'est une guerrière
de la vie.
Ah ouais, donc elle est.
Mais
elle est
forte.
Elle a une
forte corpulence et.
Ça, c'est un trauma. Enfin, quelque part, tu ne veux pas.
Tu ne veux pas ressembler.
Tu veux pas y aller.
Non, je ne peux pas.
Tu
ne
peux pas y aller.
Non.
De toute façon, je ne crois pas que tu iras.
Non, je ne veux. Et puis, je n'ai pas envie. Parce que je ne veux pas lui ressembler dans cet état d'addiction alimentaire. Et c'est très drôle parce que j'ai réussi il y a 2 mois. Elle a eu un déclic et elle a réussi enfin à changer de mode de vie alimentaire grâce à l'alimentation cétogène, pour ceux qui connaissent, où tu enlèves tout le sucre et tu ne gardes que le gras.
Donc, le bon gras.
Le bon gras. Donc, les avocats, les huiles, le beurre, tout ce qui est bon gras. Tu peux manger du fromage, tu peux manger plein de choses. Donc, en fait, c'est pas un régime.
Zéro sucre.
Ouais. Tu as le droit aux fruits rouges, au yaourt coco, au lait de coco, graines de chia. Donc, tu peux quand même trouver des choses, tu vois, un peu en sucré quand t'aimes le sucre. Mais l'idée, c'est d'amener ton corps en cétose pendant 28 jours. Donc, l'état de cétose, ça veut dire que tu vas chercher ton sucre.
Gras.
Ton sucre pendant 28 jours va être éliminé. Et au bout de 28 jours, la graisse va pouvoir fondre puisque tu n'as plus de sucre.
Plus de sucre.
Et c'est ce que j'ai fait faire à ma mère.
Parce que le corps utilise d'abord le sucre.
Exactement.
Et après le gras.
D'où le fait de parfois, c'est mieux d'aller faire un run à jeun pour pas puiser dans le sucre que tu viens de manger au petit déjeuner. T'as pas d'intérêt, tu vois, vaut mieux parfois éliminer et bien manger après, commencer par des légumes verts, commencer, tu vois, après il y a... Quand tu fais du sport, tu as envie de vivre un peu sainement, tu as aussi envie de te faire du bien, pas d'avoir forcément des carences. Donc, tu fais attention aussi un peu à ton alimentation.
Oui, je pense qu'il y a une hygiène de vie
très... alimentaire. Ouais. Et si tu as des carences, ton corps te dit hey, « Eh, là, tu es fatigué. Oh, là, tu machin. » Donc, tu t'écoutes. Le problème du sport, c'est quand tes jambes... Toi, tu dis ah, « Je veux rester au lit » et que tes jambes te disent « Non, on y va. Allez, cours. »
Est-ce que
tu
as le syndrome des jambes sans repos?
J'ai pas le syndrome, mais non. Mais si tu veux,
c'est... Ta jambe, c'est ta tête, en fait. Ouais.
Mais c'est ça, quand la tête ne veut plus, le corps te réclame. Ah ouais. C'est ça qui est fou, parce que mais tu vas chercher aussi l'hormone du plaisir. Mm. Tu vois, tu vas chercher ta dose, quoi. Tu vas chercher,
oui, parce que tu dis ça, tu dis, quand on fait du sport, c'est prouvé, même scientifiquement. Quand je dis tu dis, c'est tu m'as dit.
Oui,
quand on fait du sport,
c'est
prouvé, même scientifiquement, surnommé hormone du bonheur, les endorphines procurent du plaisir grâce à une action anxiolytique, antalgique et relaxante. Ces hormones sont sécrétées par le cerveau à la suite d'une pratique ou d'une activité physique. Je suis donc addict au bonheur et ça me va.
C'est ça.
C'est ça que tu m'as écrit quand on a échangé. C'est vrai, c'est très vrai, tu le penses vraiment. Mais où est-ce que se situe la frontière, en fait? Parce que tu me dis, il y a 7 ans, j'étais atteinte de bigorexie. Aujourd'hui, le sport, pour toi, est une solution, n'est plus un problème.
La frontière, c'était déjà d'accepter. D'accepter que t'es bigorexique, c'est-à-dire que t'es addict au sport. C'est-à-dire que moi, je pouvais me lever à 6h du matin si je bossais à 8h. Il n'y avait pas moyen, j'allais, tu vois, je reste pas au lit le dimanche matin, je fais pas de grasse mat, je fais des runs, je peux me mettre 20 kilomètres, pardon.
Et quand tu travaillais aussi, tu m'as raconté sur les tournages.
Ouais, sur les tournages, on venait me chercher à la salle de sport où on me déposait à la salle de sport après 12h, 15h de tournage. C'était pour moi impossible, tu vois. Mais à l'époque, j'avais pas la notion.
Tu jouais dans une série hyper connue.
Je jouais dans une série pour TF1 qui s'appelait RIS, Police Scientifique, un peu les experts à la française.
Ouais, c'est la classe.
Et du coup, j'avais cette chance qu'on vienne me chercher, qu'on me redépose, et donc tu as la possibilité, tu vois. Mais c'est, pour moi, c'était pas possible. J'apprenais mes textes en faisant du cardio, quoi, tu vois. En plus, ça me faisait travailler la mémoire. Parce que tu t'ennuies hein, quand tu cours, donc c'est pas mal.
Mais
d'écouter
moi, je marche
parfois aussi avec
je marche
des podcasts.
Je marche une demi-heure tous les deux jours sur un tapis. Alors moi, je sais ce que c'est le sport. Et je m'ennuie, alors j'écoute des livres audio. J'ai fait pas mal de sport. J'ai lu 35 heures d'un livre sur les preuves scientifiques de l'existence de Dieu. C'est pas mal, je te l'enverrai.
C'est même pas en audio, tu as lu.
Ah si, en audio.
Ah,
en audio,
d'accord.
35 heures. Okay,
ça va. En audio, c'est plus facile.
35 heures, c'est pas mal.
Ouais, c'est clair.
Hein, y en a qui diraient, t'as pas autre chose à foutre.
Ouais, mais si tu l'associes à une pratique sportive, enfin, tu vois, moi, parfois, je mets pas les oreillettes
c'est
et
vrai.
Parfois, j'écoute vos podcasts, j'écoute des livres aussi audio. Franchement, tu vas faire un run, tu dis pas « Ah ouais, mais t'as perdu du temps ». Non, en même temps, j'ai pris mon shoot, j'ai pris ma nature, j'ai mis la lumière que sur moi, j'ai mis mes petites baskets, il n'y a personne qui m'a ennuyé, petits oiseaux, les machins.
C'est gratuit, en fait.
Et
moi,
je me charge les neurones.
Quand
quoi.
C'est gratuit, souvent, c'est beaucoup plus efficace et c'est beaucoup plus sain,
bien
souvent.
Sûr.
Parce que moi, des fois, je marche sur cette machine-là et je me dis « Franchement, tu pourrais aller marcher dehors ».
Oui, tu peux. Après, dans Paris, c'est difficile, mais on peut toujours tout.
On peut
à partir du moment où on le veut. Hein. Enfin, tu
non,
vois,
mais je te dis ça, mais je me suis inscrite dans une salle, c'est une chose. Mais à la base, moi, je pratique les choses seule, chez moi, gratuite. C'est la respiration, le yoga, le pranayama, les exercices de souffle, la relaxation, la méditation. Tout ça, personne ne peut me le prendre comme toi. Tu mets tes petites baskets, moi, je déroule mon tapis de yoga et puis il n'y a personne. Je mets mon téléphone sur silencieux et c'est comme ça. Et je trouve qu'on en discute, on discute pas mal depuis quelques temps. Et c'est vrai que ça donne, quand on a cette joie de vivre dans certaines activités, donc on a de la chance, en fait, déjà. Parce qu'en tant qu'addict, toi et moi, on a passé du temps à se détruire, à faire des trucs qu'on regrettait, on était mal. Quand finalement, on se fait du bien, c'est déjà cool.
C'est clair.
Et en fait, on a envie de le refaire et on est bien, en fait. Pourquoi
on
se culpabiliser,
quoi. Et puis après, dire que c'est une addiction, je suis addict ou je suis dépendante à ce bien-être, à ce bonheur, à cette chose qui me fait du bien. Après, ce que je trouve pas mal, c'est par rapport à, justement, on en revient à la bigorexie, sur le fait de s'isoler. Quand t'es bigorexie, tu t'isoles, donc... À l'heure du boulot, plutôt que de déjeuner avec tes collègues, tu vas courir. Plutôt que d'être en famille le soir, tu vas faire de la piscine, puis tu vas faire du vélo 5 heures en week-end, ou tu vas faire du golf. Hein, tu vois, quand tu pars faire du golf, tu pars le week-end, tu fais des compètes, tu fais des machins.
Mais tu fais tous les sports, en fait, tu pratiques tous les sports.
Non, moi non, mais je disais juste, j'en fais, je touche à tout. J'adore essayer tout, par curiosité, voir un peu ce qui me plaît, là où je suis bonne, là où je suis nulle.
Le golf, je suis nulle. Tu découvres des sports nouveaux où tu dis, waouh, c'est la révélation.
Non, j'aimerais bien. J'aimerais bien... Non, la révélation, c'est plutôt...
Tu fais des choses qui se répètent comme une addiction, en fait. Je veux dire, est-ce que tu as tendance à répéter les choses qui te font du bien ?
En fait, ce qui me fait du bien aujourd'hui, c'est de le partager. Parce que d'être prof de yoga, aujourd'hui, j'ai monté ma société, tu vois, au mois d'avril. Donc, j'ai tout... Enfin, je suis toujours comédienne par passion et je n'arrêterai pas ce métier. Et quand j'aurai des castings, je les ferai, je les travaillerai toujours de la même manière. En revanche, j'ai besoin aussi de me construire un avenir solide, professionnel. Et que j'ai, voilà, on est né en 78, donc ça avance malgré tout. Et du coup, voilà, j'ai besoin de partager. Et à travers le yoga, bah, tu vois, je partage, je donne des cours à des gens à qui ça fait du bien. J'ai besoin de faire du bien. Tu vois, c'est peut-être ça un peu maintenant que j'ai découvert. J'ai envie de faire du bien aux gens. J'ai envie qu'ils prennent conscience que la respiration, ça peut calmer beaucoup de maux, M-A-U-X, tu vois. Et la méditation, de prendre du temps pour soi, de se reconnecter à soi, tu vois, on parle de recentrer, c'est vraiment un mot qu'on utilise souvent, mais juste d'aligner certaines choses en toi, juste te retrouver, resserrer tout au niveau de cette ligne médiale, tu vois, que tu as dans le corps, et juste de tout resserrer pour être bien avec toi-même. Et ce qui a changé, c'est ça, maintenant, j'aime le partager. J'aime donner des cours de yoga. Du coup, je me suis inscrite dans une école à la rentrée pour devenir prof de sport et donner des cours collectifs.
Extraordinaire.
Donc peut-être, ouais, à des personnes âgées, j'aimerais bien toucher aussi des gens qu'on oublie, tu vois, qui sont pas souples. Et la souplesse, c'est la jeunesse du corps. Hein.
Oui, donc, la souplesse, c'est la jeunesse du corps.
Et en fait, les personnes âgées, elles n'arrivent plus à se baisser et tout, tu vois. Donc il y a tout un truc que je suis en train de développer et c'est ça qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, j'aime faire du bien. J'ai besoin de faire du bien.
Puis surtout, en fait, la générosité et le partage, c'est tout l'inverse de la consommation.
De la
mais même de l'addiction en général.
En général,
hein, oui, la bigorexie, je connais moins, mais vraiment, on est très égocentrique quand on est addict. Et on a tendance surtout à faire tout tourner autour de notre addiction, quoi. Je pense que tu as un grand avenir dans l'aide et dans le partage parce que on se connaît depuis peu et déjà grâce à toi je t'ai rencontré on s'est rencontré il y a un mois et demi à peine physiquement.
Ouais.
Et puis j'ai arrêté de fumer le jour où on s'est vu. Non mais c'est fou, voilà, déjà de je sais pas, tu dégages quelque chose de fort, tu étais avec des gens aussi qui m'ont inspiré. Et puis surtout, tu faisais un bootcamp pour une association dont tu es la marraine, qui s'appelle Art et Mouvement, et qui aide les femmes victimes de violences conjugales.
C'est ça, à se reconstruire. Et les enfants aussi.
Donc tu vois, tu es déjà très, 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 très bien partie. Est-ce que tu as l'impression quand même, puisque le titre de cet épisode, je pense que ça sera peut-être le sport, une drogue comme une autre, je ne sais pas encore comment l'appeler sinon, mais j'ai envie même de dire une fuite comme une autre. Est-ce que tu as encore l'impression, parfois, de te fuir ou d'anesthésier quelque chose que tu n'arrives pas à sortir? Est-ce que tu as l'impression que tu peux fuir encore avec cette addiction-là?
Je pense que je suis addict à plein de choses, tu vois. J'ai découvert, je ne sais pas si vous connaissez, l'orthorexie. Tu sais? Je ne savais pas. Et ce serait hyper intéressant, d'ailleurs, l'orthorexie.
Puissant, je l'ai découvert aussi, là.
Incroyable.
Oui.
Et l'orthorexie, c'est de manger, en fait...
Que des choses très saines.
Ouais, que des choses très saines. En fait, tu as... C'est les troubles qui poussent une personne à s'attacher de manière obsessionnelle à la qualité des aliments qu'elle absorbe.
Tu as ça un petit peu
Je pense que je l'ai un petit peu, mais c'est-à-dire que dans l'orthorexie, c'est aussi, tu vois, un truc que c'est assez puissant parce que tu penses qu'à ça toute la journée, qu'est-ce que je vais manger, faut que je mange ça, et tu vois, donc c'est quand même, il y a vraiment un vrai trouble obsessionnel. Moi, j'ai un trouble, je suis très excessive. Par exemple, j'aime la mimolette, pendant un mois, je vais manger 2 mimolettes par jour.
Non, ouais. C'est obsessionnel, ça.
Et c'est excessif aussi, parce qu'après, je m'arrête, tu vois, ça dure pas longtemps.
De toute façon, l'addiction, c'est obsession-compulsion. Ouais. Donc, tu l'as. Et ce qui est génial, c'est de le reconnaître. Il n'y a pas besoin de comparer, de dire voilà, celui-là, il va obséder toute la journée sur le truc le plus sain à manger. Du moment que ça ça te prend du temps dans ta vie et que c'est quand même un petit peu, ça tourne dans ton cerveau et que tu ne peux pas t'empêcher de le faire, il y a quand même un trouble addictif.
Oui, il y a un manque. De voilà. Toute façon, à partir du moment où tu es addict, il y a un manque.
Mais on ne peut pas tout soigner, en fait.
Ça comble un vide, il y a un manque quelque part. Donc,
mais si on le fait, en fait, c'est qu'on en a besoin. Et si on en a besoin, et finalement, c'est aussi qu'on est foutu comme ça. Et c'est génial de pouvoir trouver des choses qui vont nous remplir et qui sont moins nocives que certaines.
Oui, de trouver son équilibre totalement avec des choses qui nous font du bien, en fait, tu vois. Donc, j'ai pas des troubles alimentaires, mais je fais attention à ce que je mange, ce qui est normal. Je peux pas avoir un corps, c'est sûr, comme ça, un peu fine, si je mange toute la journée des kebabs ou des pizzas.
Non, je te confirme, oui.
C'est sûr, mais...
Mais tu as aussi une petite dysmorphophobie quand même, parce que je crois que tu te rends pas compte de... Non, mais tu te rends pas compte aussi. Il y a plein de gens
qui se rendent pas compte.
Bien sûr. Non, mais c'est-à-dire que je sais ce que c'est. J'ai dit toute ma vie, je suis énorme, alors que je l'étais pas. Je sais ce que c'est. Aujourd'hui, je crois que j'ai réussi à... En fait, c'est même l'inverse. J'ai l'impression parfois de me voir plus mince que ce que je suis. Je me dis, ça va. Et après, je mets mon jean et je vois, je rentre pas dedans. Je vois, j'ai dû le laver.
Oui, c'est ça.
Alors qu'avant, c'était l'inverse. Je mettais un jean et je dis, ah, mais je rentre plus. Donc, ça, c'est cool quand ça commence à partir, en fait. Je me rends compte, en te connaissant un petit peu, qu'il y a ce truc-là quand même, parce que tu as un corps qui est,
ouais,
dont la graisse est totalement absente,
ouais, j'ai envie de dire. Non, mais la graisse qui était chez ma mère, moi, je ne l'accepte pas. Donc, bien sûr qu'il y a quelque chose.
Puisque
ma mère,
voilà.
ma mère est obèse. Et encore une fois, tu vois, j'ai réussi à la mettre à un mode de vie alimentaire par un régime, parce que j'insiste vraiment là-dessus, différent. Et elle a perdu 10 kilos. Il y a deux semaines, je suis allée lui faire du vélo.
C'est super. Puis elle va reprendre.
Elle va reprendre. Tu vois, je lui envoie des exercices de mobilité. Elle fait un peu l'elliptique chez elle. Tu vois, je la pousse. Je lui ai fait un programme. Je lui ai fait un emploi du temps avec des petites phrases gagnantes tous les jours, c'est toi la guerrière, enfin tu vois, des trucs que j'ai cherché, que j'ai un peu chiadé. Elle est dans la cuisine parce que son mec cuisine de folie, donc il est toujours en train de faire des trucs de fou. Quand t'es au régime, c'est hyper dur d'avoir un mec, sa passion c'est la cuisine, tu vois. Et lui, il mange rien, parce que quand tu cuisines, tu manges rien souvent.
Pas moi. C'est pour ça que je ne cuisine pas d'ailleurs.
Mais tu sais, souvent t'as des chefs qui disent
je peux pas manger parce que
j'ai tellement cuisiné. Et en fait, elle a eu ce déclic. Je l'ai aidée, tu vois, à remonter sur un vélo.
Donc toi, t'as envie de ça, en fait, t'as envie d'aider des gens à retrouver, en fait, déjà une estime de soi, je pense. Il y a ça qui est intéressant, quand même. Je pense que
je me suis alignée avec moi-même et j'attends plus des autres.
Voilà.
Et mon métier de comédienne m'a vachement marquée là-dessus. C'était toujours dans l'attente du désir de l'autre, du désir de la chaîne, du désir du producteur, du désir du réalisateur, de tout le monde. Et t'es toujours dans le désir. Et en fait, à un moment donné, tu n'es plus toi-même. Parce que d'être dans le désir de l'autre, c'est pas toi.
Ce métier-là, en fait, que ce soit acteur ou chanteur, ou en tout cas les métiers qui sont dans la lumière, nous demandent de soigner beaucoup plus la vitrine que ce qu'il y a dans le magasin.
Voilà.
Et qui est-ce qui nous a dit ça le jour ? J'ai décidé de soigner un petit peu plus, je crois que c'était Christine Béraud, dans son livre, elle écrit, j'ai décidé de soigner un peu plus l'intérieur de mon magasin plutôt que la vitrine, je trouve ça pas mal du tout. J'ai juste une dernière question, parce que...
Et moi je rebondis sur ce que tu disais de Christine, moi j'aime beaucoup se dire, il faut se regarder en 3D. Et trois dimensions, ça veut dire regarde à l'intérieur et pas en 2D, le superficiel.
Et j'ai juste une dernière question. En fait, moi, j'essaye d'aller vers la voie du milieu, même si l'abstinence, dans certains domaines, je le prône, hein, évidemment, puisqu'on ne peut pas boire quand on est alcoolique, on ne peut pas prendre de la drogue quand on est drogué. Malheureusement, c'est terminé pour nous. Mais la voie du milieu, la voie de Bouddha, le bouddhisme, cette voie de milieu, pour moi, est extrêmement importante dans tout. La méditation, je ne vais pas partir, j'aimerais méditer 10 heures, des fois, je te le jure, j'ai ce truc-là en moi.
Incroyable.
Et je me dis, bah non, c'est une fuite, parce que ça veut dire qu'à côté, tu ne fais pas ce que tu as à faire. Cette voie du milieu, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus sage. Et de savoir, donc si on parle de bouddhisme, il y a ce côté d'attachement. On est attaché à des choses et c'est ça qui nous fait souffrir, parce qu'elles peuvent disparaître. Parce que l'impermanence des choses, ok ? Imaginons demain que tu ne puisses plus faire de sport. Est-ce que tu penses que tu as acquis en fait en toi quelque chose, justement, tu as réussi à remplir des choses, à cocher des cases, à aligner suffisamment pour trouver ta joie ailleurs si jamais quelque chose t'amenait à ne plus faire de sport ?
Je me suis pas vraiment posé la question, même si elle te titille un peu, parce que quand t'es prof de yoga ou que t'es prof de sport, demain tu te blesses, tu peux plus marcher, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais à la voix, tu vois, tu dictes des cours de yoga à la voix. Moi, si tu veux, aujourd'hui, je fais aussi beaucoup de randonnées, c'est-à-dire de marches rapides. J'ai proposé le week-end dernier gratuitement un yoga randonnée. parce que le yoga est très important aussi pour tout ce qui est sport. En fait, c'est vraiment un complément pour faire du mieux à son corps.
Tu fais beaucoup de choses gratuites aussi, hein. Tu proposes pas mal de choses, je trouve.
Ouais, bah, je fais du bénévolat pour une association. Je donne des cours aux femmes une fois par semaine. Ça leur fait un bien fou. J'ai cette chance aussi, tu vois, d'avoir monté ma société et de la démarrer. Donc, je me permets, tu vois, sur peut-être 6 mois, 1 an, de pouvoir aussi me former grâce aux gens que je rencontre et en essayant des choses. Mmh. Je peux le faire. J'ai un petit chômage. À côté de ça, je monte ma société en parallèle. Donc, j'ai quand même, tu vois, une petite sécurité au moins pour monter ça. Et puis, de toute façon, pour que les gens viennent à toi, il faut aussi leur proposer. Parce que c'est toujours, tu sais, dans la vie, c'est toujours, faut payer pour faire quelque chose, faut payer pour quelque chose. Mais en même temps, non. Pourquoi pas faire plaisir à quelqu'un qui te fera plaisir aussi différemment? Enfin, tu vois, il y a peut-être aussi un échange gagnant-gagnant et pas toujours monétaire. C'est toujours la même chose. Donc,
écoute, je crois que, en fait, la transition, elle est toute faite avec ce podcast. pour moi, c'est important le don, parce que c'est circulaire et qu'en effet, ça te revient d'une façon
ou d'une autre.
Et les rencontres comme celle-là font partie des récompenses, tu vois, que j'ai en faisant ce podcast. Et je suis très, très heureuse de t'avoir reçu. J'espère que ça pourra aider pas mal de monde parce que c'est une addiction vraiment toute particulière. Et ton parcours, il est très intéressant. Vraiment.
Bah, merci vraiment parce que c'est... On dit que la parole est libératrice et le fait que tu m'aies appelé, que vous m'ayez appelé pour faire ce podcast m'a permis aussi beaucoup de réfléchir sur moi. Parce que j'avais besoin aussi de faire une introspection et ça m'a permis beaucoup d'avancer. Donc merci pour cette invitation qui m'a permis d'aller plus loin encore.
Merci Laetitia.
Merci beaucoup.
Rendez-vous chaque semaine sur toutes vos plateformes de podcasts préférées. Et en attendant, on se parle sur les réseaux sociaux de Rose, de Doublement de Création et sur le compte Instagram Contradiction Podcast.
C'était l'émission Contre Addiction avec Rose sur IDFM Radio. Rendez-vous lundi prochain de 21h à 22h. Retrouvez le podcast sur rose-lecite.fr et idfm98.fr. IDFM Radio, par nous, pour nous. Can go on.